Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, ou l'agriculture racontée par ceux qui la font. C'est à portée de fusil du camp d'entraînement militaire de la cavalerie que Marion et Romain ont repris la distillerie de la ferme des Homs pour en développer l'activité.
Bonjour, alors est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ?
Alors Marion
et Romain.
On est sur la ferme des Aromatiques du Larzac, la ferme des Homs, commune de Nantes.
Voilà, sur la côte du Larzac, à l'est du Larzac.
Nord-ouest du Larzac, ouais.
Nord-ouest. Et donc, vous faites des aromatiques, c'est-à-dire, ça consiste en quoi exactement ? Vous cueillez des plantes pour faire des médicaments ou pour faire des boissons ou...
On a une activité de production de plantes aromatiques sur la ferme. Mmh. C'est-à-dire qu'on produit entre 20 et 30 espèces différentes sur la ferme, des plantes pérennes et des annuelles aussi. Mmh. Et voilà, donc sur une surface d'à peu près 2 hectares aujourd'hui, qui s'agrandit un petit peu tous les ans. Et après, on a également une activité de cueillette sauvage, notamment sur des petits fruits. Les petits fruits sauvages type prunelle, le cynorhodon qu'on connaît sous le nom de gratte-cul, le genièvre, le thym, tu penses à quoi ?
Des mûres.
Les mûres, voilà.
Des tout. Poires.
En fait, c'est des poires sauvages aussi, ouais, ça dépend un petit peu de la saison. On n'a pas des productions qui sont identiques tous les ans, donc voilà, ça dépend un petit peu des années. Et après, donc, ces plantes qu'on cultive sur la ferme ou ces petits fruits récoltés en cueillette sauvage, on les transforme après, ici, sur la ferme. On a trois grands types de transformation. On a une gamme de produits plutôt herboristerie, on va dire, donc des tisanes, des plantes en sachet, des sels aromatisés, des mélanges de plantes pour épices, aromatisation, etc. Après, on a une activité d'aromatisation de vinaigre. Donc on fait plusieurs types de vinaigre aromatisés. Et on a une activité de liquoristerie. Donc transformation des plantes et des petits fruits en liqueur apéritif ou alcool blanc distillé, puisqu'on est équipé d'alambic et on fait de la distillation sur la ferme. Et donc la ferme que nous on a repris à 6 ans, elle est connue pour le pastis, le fameux pastis des Homs. Voilà. Mmh. Donc nous, quand on a repris, la recette existait déjà. Et donc autour de ça, il y a plein de produits qui se sont déclinés autour des plantes et des petits fruits sauvages.
Sur la cueillette sauvage, ça se passe comment ? Vous faites des demandes d'autorisation auprès de la mairie, auprès des propriétaires ? Comment ça se passe ?
Alors il y a déjà toute une partie de la cueillette sauvage qu'on peut faire sur nos terres, parce qu'en fait il y a 40 hectares qui sont rattachés à la ferme. On en cultive, donc comme disait Romain, 2 hectares. Donc ça donne déjà un bon petit terrain de jeu. Après, aux alentours de chez nous, donc on est entouré d'éleveurs en fait. Donc sur les terres des voisins éleveurs, il y a aussi pas mal de possibilités. Et voilà, théoriquement, enfin en général, on demande l'autorisation, on prévient quand on va accueillir. Et notamment pour la certification bio, c'est une étape importante pour pouvoir faire certifier toutes ces cueillettes sauvages. Il faut qu'on ait l'attestation, l'autorisation du propriétaire pour pouvoir valoriser ces cueillettes.
D'accord. Et vous êtes en bio ?
On est certifié bio, ouais, depuis... Alors, on a repris la ferme il y a 6 ans maintenant. Donc, à la reprise, on est rentré dans cette démarche de certification bio qui n'avait pas été faite, enfin, qui n'était pas une volonté de nos prédécesseurs. Donc, du coup, on est passé par 3 années de conversion et on est certifié là, depuis 2020, je crois. Mm-hmm.
Et donc, il faut que les gens chez qui vous cueillez éventuellement soient aussi certifiés bio.
Alors, il faut surtout... En fait, c'est vraiment la zone de cueillette qui est importante. Nous, on cueille sur des parcours. Donc, c'est des zones qui sont pas traitées. On est entouré, je dirais, à 90% d'éleveurs bio. Donc, ça facilite les choses. Mais voilà, il n'y a pas de... Ce que va vérifier le contrôleur le bio, c'est de voir voilà, vraiment sur quel type de terrain on cueille. Hein. Il ne faut pas cueillir en bord de champs si c'est des champs conventionnels. Donc voilà, il n'y a pas forcément l'obligation de cueillir chez des bio, mais il faut qu'on cueille sur des terrains qui sont voilà, en adéquation avec notre production.
Une distance suffisante de parcelles qui peuvent avoir reçu des traitements type pesticides.
Ça, c'est etc. le contrôleur qui le détermine. C'est lui qui dit, là, vous êtes assez loin, vous êtes trop près.
Oui. Nous, c'est-à-dire qu'en fait, on répertorie toutes les zones de cueillette sur lesquelles on pense qu'il y a des choses intéressantes à aller chercher. Et après, le jour du contrôle, on demande au contrôleur si les parcelles correspondent à leurs exigences, quoi.
Et donc, vous avez repris la ferme, si je compte bien 6 ans, ça nous ramène à 2016.
C'est ça, oui.
Comment vous êtes venu ? Est-ce que vous étiez agriculteur auparavant ? C'est une reconversion professionnelle ?
C'est une reconversion ouais, pour tous les deux. Alors, on a fait tous les deux une école d'agro à Lyon. Donc, on s'est rencontrés là-bas et c'est pendant nos études qu'on s'est dit qu'à... À terme, en fait, l'envie de reprendre une ferme a commencé à germer à ce moment-là, dans un coin de notre tête. Mais on voulait bosser quand même, voir différentes choses, etc. Puis au bout de quelques années de boulot, dans des milieux différents, Romain dans les énergies renouvelables, moi dans la filière viticole, l'envie qu'on avait vue un peu lointaine a commencé à se faire de plus en plus pressante. Et on a commencé à chercher, sans être pressé, mais on a commencé à se plonger un petit peu, à imaginer un projet. Donc on a imaginé tout un tas de productions différentes. Et puis en fait, c'est vraiment... quand on a su que... Pierre-Yves et Maria, donc nos prédécesseurs qui ont créé toute cette activité ici, cherchaient des repreneurs. On connaissait un petit peu ce qu'ils faisaient. Et voilà, quand on a su que la ferme était à reprendre, les choses sont allées assez vite en fait. On a franchi le pas assez rapidement et sans
trop tergiverser.
Ouais, c'est ça. Il y avait une certaine certitude. Évidence quoi, c'était presque naturel. Enfin voilà, tout s'est fait vraiment, tout s'est enchaîné. Et
s'installer sur le Larzac, ça vous a pas un peu effrayé parce que il fait quand même froid, on voit pas grand monde. Ça vous a pas traversé l'esprit que c'était peut-être un peu.
Alors le côté il fait froid, on savait à quoi s'attendre parce que voilà, moi j'ai grandi, j'ai passé pas mal d'années déjà sur le Larzac quand j'étais enfant, donc je savais à quoi m'attendre.
Ouais.
Après, le côté pas avoir grand monde, honnêtement, aujourd'hui, on le ressent absolument pas. J'ai même l'impression qu'on voit plus de gens que quand on était avant dans nos bureaux. Il y a une vie là, en tout cas sur cette zone du plateau, qui est finalement assez intense. Il y a beaucoup de gens, de petites fermes qui travaillent un peu, on va dire, à notre échelle, sur des petites structures qui font de la transformation. Il y a une vie, quoi. Ça marche bien. Il y a du monde un peu partout. On fait partie d'une boutique de producteurs pour laquelle on a participé au montage à Nantes, qui nous a permis aussi de connaître un peu pas mal de gens dans le secteur. Et voilà, et aujourd'hui, on a une activité qui nécessite qu'on ait des salariés. Donc on a du monde qui vient tous les jours sur la ferme. On expédie beaucoup, on a des transporteurs. Enfin voilà, il y a du monde tout le temps. On a des voisins qu'on voit régulièrement. Enfin voilà, on voit pas mal de monde finalement.
La vie sociale est assez riche, à la fois au quotidien dans le boulot. Et puis la vie... au-delà du boulot, est assez chouette sur Larzac, il se passe quand même pas mal de choses. Donc ouais, il y a vraiment pas de, je pense qu'on n'a rien à envier à.
D'accord, à des citadins.
Ouais.
Oui, puis vous avez les feux d'artifice régulièrement, j'imagine, à côté.
Ouais, alors on a le son, on n'a pas forcément l'image.
Ah, ouais. Et d'ailleurs, parmi tous les corps de métier de l'agriculture, pourquoi vous êtes-vous orienté sur celui-là ? C'était juste l'opportunité de la ferme qui se libérait ? Ou est-ce que vous aviez vraiment envie de travailler les plantes, les aromatiques, les fruits ?
En fait, quand on avait en tête l'idée de s'installer, de créer un ou de reprendre un projet agricole, l'idée des plantes aromatiques, c'est quelque chose qui, du départ, nous faisait envie, mais on l'avait finalement un peu mis de côté parce que les projets qu'on connaissait ou le peu d'études qu'on avait fait sur le sujet nous apportaient quelques craintes sur la viabilité économique de ce type d'activité. Souvent, les plantes aromatiques, soit c'est une activité annexe à autre chose, à une ferme qui fait autre chose en termes d'activité, ou alors c'est vraiment des toutes petites structures où les deux, enfin quand on vit en couple, où les deux conjoints sont pas forcément impliqués dans l'activité. Et alors du coup, quand on a entendu parler des hommes, moi je connaissais un peu, on est venu voir et on s'est dit, mais en fait là, il y a vraiment un projet où nos prédécesseurs avaient eu vraiment des idées très originales pour valoriser les plantes aromatiques et qui permettent d'apporter une valeur ajoutée qui fait que le projet il est viable et qu'on peut en vivre si on s'y prend bien.
Puis c'était un projet qui regroupait vraiment tout ce qu'on cherchait, donc à la fois en termes de la production, transformation, vente directe, en termes de cadre de vie et aussi une particularité. On est sur une ferme qui, donc on n'a pas eu à racheter, on est sur une ferme SCTL, Société Civile des Terres du Larzac.
D'accord. Et les bâtiments.
Ouais. Tu veux que je reprenne un peu?
J'ai entendu parler, c'est les anciens du Larzac qui ont mis ça en place. Grosso modo, ouais. T'as le bâti tant que tu travailles, et puis après,
c'est ça. On est sur une ferme donc, ouais, qui avait été rachetée par l'armée quand il y avait le projet d'extension du camp militaire de la cavalerie dans les années 70. Et donc, ça fait partie des fermes et des terres qui ont été, en gros, quand le projet d'extension du camp militaire a été abandonné en 80 à l'élection de Mitterrand, tous ces biens que l'armée avait rachetés ont été, en quelque sorte, donnés en gérance. Enfin, la gérance a été donnée aux opposants de l'époque, qui ont constitué la Société Civile des Terres du Larzac. Et c'est cette SCTL qui choisit le fermier qui va bénéficier de cette ferme, elle lui concède un bail de carrière, c'est-à-dire que c'est un bail qui est lié à l'activité agricole. Tant qu'on est agriculteur, on reste en place. Le jour où on arrête l'activité, on rend le bien, on rend notre outil de travail, en fait. Et donc ce fonctionnement-là, qui est assez atypique, facilite quand même pas mal l'installation, parce qu'on a pas à racheter tout le bâti et les terres.
Pas 600 000 euros à sortir
non.
Pour reprendre la ferme.
Ouais.
Et donc au jour d'aujourd'hui, vous dégagez un salaire à chacun, et en plus vous avez des salariés.
Aujourd'hui, nous, on vit tous les deux sur l'exploitation. On arrive à se dégager un salaire tous les deux, et après on a trois personnes en plus qui travaillent sur l'exploitation. Donc deux qui sont pas à plein temps, qui sont à 60%, et une personne à plein temps.
Je sais pas comment sauver le monde, et si je savais, je suis pas sûr que je le ferais. J'ai pas grand chose à t'offrir, à part te dire qui je suis et ce que je sais. Je crois jamais ce qu'on me dit en premier, les mensonges circulent plus vite que le vrai. J'ai couru après le bonheur, sans prendre le temps de savoir ce que c'est. J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir autre chose que des regrets. Quand tu verras 2022, je comprendrai qui se met à pleurer. Ils disent que tout va s'effondrer, qu'on va y passer dans 3 degrés. Je pensais que la science allait nous sauver, mais j'ai de moins en moins confiance au progrès. Je sais même pas pourquoi je pense à ça, j'y connais rien, qu'est-ce que j'y connais. Que de la data pour les GAFA, bâtard, t'es rien d'autre qu'une donnée. J'ai quelques éclairs de génie, mais la plupart du temps, je suis teubé. Je connais que les mauvais alcools qui donnent l'alcool mauvais. J'avais peur d'avoir rien compris, maintenant j'ai peur qu'il y ait rien à comprendre. Piégé dans notre propre système, prisonnier dans une sauvegarde bloquante. Je viens de là où les darons ressemblent à Cole, et je viens de la campagne normande. Ils aiment juste les bonnes affaires, tout ce qu'ils veulent, c'est voir l'émission de la brocante. Maman m'a dit, s'il y a des pauvres, c'est qu'ils ont mal travaillé à l'école. C'est pas de sa faute, sa mère racontait le même genre de merde à ses gosses. C'est pas de sa faute, sa mère, bref, faut qu'on brise ce putain de cercle. Il est vicieux ce putain de cercle, je peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. Aide-moi. Marche. Marche avec moi. Apprends-moi. Méga. méga, méga, méga. Je peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. Soyons d'accord de pas toujours l'être. Traite-moi comme tu voudrais que je te traite. Réussir sans faire de bien, c'est perdre. Apprends-moi la franchise, me juge pas, j'aurais moins envie de mentir. On m'a dit sois fort, faut devenir un homme. Rappelle-moi que ma force est d'être sensible. Quand la vie n'a pas de sens, aide-moi à lui en donner un. Écarte-moi des mauvais chemins. Rappelle-moi qu'on peut croire qu'on est personne à trop vouloir devenir quelqu'un. Aide-moi à trouver l'équilibre. Grandir n'est jamais fini. Je sais mieux donner les conseils que les suivre. Un jour on va mourir, tous les autres on va vivre. Oublie le futur, c'était avant. Oublie le futur d'avant, c'est pas sûr qu'on soit dans. Apprends-moi le pardon, la patience. Faut qu'on soit meilleur que nos parents. Faut qu'on apprenne à désapprendre. Je veux pas croire que le temps est avant. Qu'on soit juste une valeur marchande. Avant je rêvais de quitter la France. Fais rester, je préfère qu'on la change. Mélange vieille et nouvelle croyance. Mélange humanisme à la science. Évidemment c'est plus comme avant. Faut te faire une raison, c'est le concept du temps. Le monde est en mouvement, porte-moi dans le courant. Prends mon pouvoir, la tentation est trop grande. Prends mon ignorance. Je dois mettre un nom sur les choses pour les comprendre. J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir une civilisation. Je peux pas faire tout seul, va falloir qu'on fasse ensemble.
Tout se transforme, rien ne se perd. J'ai pas fait que des choses dont je suis fier. Je veux devenir meilleur, je peux pas revenir en arrière. J'étais tout seul, on est des milliers. Bientôt vous allez tous m'oublier. Désolé mais je vais devoir vous quitter. Dis-toi seulement qu'on a kiffé.
Hier c'était hier, aujourd'hui j'efface les têtes hein. Je changerai pas ce que j'ai contre la jeunesse éternelle hein. On a fait ce qu'on a fait comme on l'a fait. Mais on l'a fait hein. Tout se transforme, rien ne se perd. Ombre et lumière.
Donc vous vendez, vous faites en vente directe, ce qui améliore grandement, j'imagine, la valorisation de votre travail. Vous avez déjà posé la question de savoir si vous partiez sur un autre modèle économique, vendre à des grossistes, passer par je sais pas, une marque locale ou un peu plus gros. La vente directe, c'était l'évidence pour vous ?
La vente directe, ouais, c'était quelque chose qui nous motivait du départ dans notre projet avant d'arriver ici. Et puis une fois qu'on a eu la reprise des hommes en tête, ouais, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie du projet. Quand on est arrivé là, la commercialisation était déjà établie sur différents canaux et qu'on a consolidé un petit peu. Et aujourd'hui, ouais, je pense qu'on fait quasiment deux tiers de nos ventes en vente directe, donc la boutique sur place, le site internet, un marché l'été à Montredon et les boutiques de producteurs, notamment celle de Nantes, celle du village. Et le reste, c'est des tiers restants, c'est des cavistes, des épiceries fines, un peu partout en France, mais surtout, voilà, je dirais, en Occitanie.
Aujourd'hui, sur la ferme, on disait qu'on était 5, mais il y a 2 personnes sur les 5 qui participent à la commercialisation, quoi. Mmh. Et c'est une grosse, grosse part du boulot. Donc la contrepartie de ce choix-là, c'est aussi que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ouais.
Est-ce que c'est un métier que vous conseilleriez à quelqu'un qui voudrait se lancer, qui vient vous voir ? Qu'est-ce que t'en penses, et toi, agriculteur ? Et si vous le conseillez, vous mettez en garde sur quoi ?
Ouais, bien sûr que c'est un métier qu'on conseille. Nous, on se régale et je pense que tous les voisins qu'on a autour, qui sont plus sur de l'élevage, enfin voilà, c'est des passionnés aussi et voilà, quand on trouve sa voie, faut y aller quoi et on reçoit énormément de sollicitations de gens soit en formation, enfin en stage, en reconversion, notamment depuis le confinement, il y a énormément de on sent que ça bouge et que les gens se posent des questions donc sur leur choix de vie, etc. Donc c'est chouette, nous c'est quelque chose qu'on conseille bien sûr, ouais. Après à quoi faire faire attention,
quel est le principal écueil à éviter?
Tu en es un, moi.
Je crois savoir, vas-y.
Je pense quelqu'un qui se lance, je lui dirais vas-y carrément, fais-toi plaisir, c'est que du bonheur. Mais par contre, attention à... En fait, l'activité agricole, pour moi, c'est quand même une activité où la vie professionnelle et la vie privée, elle est un peu mêlée. Mmh. parce que souvent les corps de ferme sont, enfin, la maison est au milieu de l'exploitation. Les horaires, alors encore plus certainement en élevage, mais on est d'astreinte un peu n'importe quel moment de la journée. Donc ça prend beaucoup de part sur beaucoup de temps sur la vie privée aussi. Enfin, donc voilà. Donc je dirais attention à ça, quoi. Il faut arriver à faire en sorte de se détacher un petit peu de l'activité professionnelle de temps en temps et se dire bah tant pis, il y a ça à faire, mais je prends du temps pour moi, quoi. Et enfin, on en parlait tout à l'heure sur les vacances. Nous, c'était un peu un objectif au départ de se dire il faut qu'on arrive à se dégager du temps pour nous et prendre des vacances pour partir, parce que sinon, si tu restes tout le temps sur place, ben tu décroches jamais, quoi. Ouais. Le burn-out, c'est pas que dans les boulots de bureau, je pense. Voilà, donc il faut faire gaffe.
Et alors, ma dernière question. Vous n'avez pas attendu d'avoir une ferme pour connaître le milieu agricole, puisque vous êtes ingénieur agronome. Mais est-ce que vous avez une idée, au vu du parcours qu'a connu l'agriculture depuis l'après-guerre, et où elle en est aujourd'hui, de ce qu'elle pourrait être, de ce qu'elle devrait être dans les années à venir, dans 10 ans, dans 20 ans ? Que ce soit ici sur le Larzac ou même l'agriculture en général, est-ce que vous avez une idée de ça en fait ?
Alors, pourrait être ou devrait être, c'est de... Ouais, la réponse est différente, je pense. En gros, on assiste un peu à l'éloignement, enfin la différenciation entre deux modèles agricoles, un modèle hyper productiviste à grande échelle, hyper mécanisé sur des marchés mondiaux. Où, voilà, ouais, quelque chose de vraiment, enfin je dirais, de déconnecté de notre échelle à nous. Et voilà, et à l'opposé, il y a de plus en plus un développement de la vente directe, de la bio et tous les mouvements qui vont avec. Et une agriculture à l'échelle vraiment plus humaine et locale. Et je pense que ça va s'intensifier vu l'évolution de la planète. On assiste vraiment à cette séparation en deux de l'agriculture, quoi.
On voit qu'il y a de plus en plus de petites fermes en vente directe qui travaillent des produits de qualité à l'échelle locale, etc. Je pense qu'il y a la place pour encore beaucoup, 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 beaucoup de fermes comme ça. Et ça va... C'est une tendance et ça, espérons que ça continue, qu'il y en ait de plus en plus. Mais il y aura toujours des... On aura toujours besoin, je veux dire, à moins de faire un retour en arrière énorme, on aura toujours besoin d'une production un peu plus de masse pour l'industrie, pour la collectivité, pour etc. quoi. Et l'important, ce serait au moins d'arriver à se détacher de cette agriculture qui est complètement dépendante des flux mondiaux, en fait. Quand on voit que pour élever des animaux, on fait venir du soja du Brésil. Nous, par exemple, on le voit aussi à notre échelle, puisque nous, on a beaucoup de produits extérieurs dans nos transformations. On achète du sucre, on achète de l'alcool. Et on voit l'origine, c'est des produits agricoles, mais on voit l'origine de ces produits. Alors on a fait un gros boulot là-dessus, mais au début, en travaillant en bio, on avait du sucre qui venait du Brésil, justement, d'Amérique du Sud. Donc maintenant, on est content parce qu'on a réussi à trouver une filière française sur du sucre de betterave français, bio. Sur l'alcool, c'est pareil, les productions d'alcool de masse et des céréales qui viennent d'un peu partout. Donc on essaie de faire en sorte de sourcer le mieux possible nos produits. Mais je pense que voilà, il y aura toujours une agriculture qui sera de toute manière faite à une échelle assez importante, mais il faudrait arriver à se détacher de ces flux mondiaux pour relocaliser, au moins à l'échelle nationale, nos sources de protéines pour les animaux, nos sources de betteraves, de blé, etc., pour faire des sucres, des alcools, enfin voilà, tous ces produits qui sont des produits industriels qui bénéficient aujourd'hui de ces flux complètement mondiaux qui sont aberrants, en fait.
Puisque, avec beaucoup de spéculation dedans.
Avec beaucoup de spéculation, des produits qui viennent de pays où la réglementation n'a rien à voir avec le pays dans lequel on transforme. Enfin bon, voilà, il y a des aberrations. Il y a des aberrations là-dedans, quoi. Donc il faudrait au moins arriver à rendre tout ça un peu plus cohérent, quoi.
Bon, alors, ça y est, on est parti en goguette.
Hein. Donc, on va...
Ah ben voilà, le champ.
On va faire un petit tour dans les plantes. Là, c'est la parcelle la parcelle historique, on va dire, on a un peu étendue. C'est là où on trouve toutes les pérennes, en fait. Thym, romarin, lavande, origan, sauge.
Et ça reste tout le temps ou au bout d'un certain nombre d'années, il faut changer ?
Alors ouais, en général, un rang, quand il est en place, théoriquement, on dit qu'il dure 6-8 ans. J'ai l'impression que ça donne un peu plus... Enfin, on les tire un peu plus longtemps.
D'accord. Donc, quels sont là, par exemple ?
Et là, c'est les rosiers. Rosa gallica.
Ah. Vous faites quoi avec les rosiers ?
Alors, on en fait sécher pour mettre dans les tisanes. Et on l'utilise aussi en macération dans un vinaigre. On fait des sirops de vinaigre qu'on appelle les larsamiques, qui vont s'utiliser comme du balsamique, en fait. D'accord. Donc, il y en a quatre. Il y a sureau, genièvre, églantine. Et il y a celui à la rose qui est, qui est pas mal.
Larsamique, c'est une espèce de jeu de mots.
C'est ça. Ouais. C'est le balsamique du Larzac.
D'accord.
C'est ça.
Tout se récolte à peu près à la même époque ou...
Non, c'est l'intérêt d'avoir un système hyper diversifié. On a une trentaine de plantes différentes. Et donc, elles vont toutes se succéder. En gros, on démarre les cueillettes au mois de mai avec l'estragon et le thym. Et puis après, elles viennent les unes à la suite des autres jusqu'au mois de juillet. Tout va s'enchaîner, donc ça permet à la fois de répartir le travail et de répartir aussi l'encombrement au séchoir.
Et avec une superbe vue sur les Cévennes.
Oui. Le Causse Noir, là. Et puis, on peut apercevoir l'antenne de l'Aigual.
Ça, là-bas, là ? En face, entre les deux petits... petit mont qui... D'accord.
Et puis après, c'est les Cévennes.
Ah ouais. C'est vraiment juste... C'est quoi le cours d'eau qui est en dessous ?
C'est la Dourbie.
C'est la Dourbie.
On est au-dessus de...
Donc, de l'autre côté, la Dourbie, c'est les Cévennes.
Ouais, Causse Noir et Cévennes qui commencent après Saint-Jean-du-Bruel, là.
Donc, il y a deux alambics qui sont reliés l'un à l'autre.
Non. Ah. Ils fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Là, il n'y a que celui-ci qui tourne, le plus petit, qui est plus fiable.
D'accord. Donc, vous faites chauffer au gaz ?
Oui. On fait chauffer au gaz. Dans cette marmite-là, on a mis le genièvre et les autres plantes qui ont macéré dans l'alcool. Et donc, en fait... Ça chauffe et tout l'alcool chargé de tous les parfums, tous les arômes s'évapore. Là, il y a une lentille de condensation. Donc, ça fait retomber, les vapeurs. Ça permet de concentrer, vraiment l'alcool et les vapeurs et de pouvoir sortir plus haut en degré.
Ça fait une double évaporation, en fait.
Ça se vaporise une première fois avant de retomber, de se revaporiser de manière plus concentrée. Ça monte là-dedans et là, hop, ça circule dans le refroidisseur. Si tu touches là-haut, c'est chaud et là, c'est froid.
Et en bas ? Ah oui, en bas, c'est froid.
Ouais.
Et tout en haut, c'est chaud. Ouais. Et à l'intérieur, donc, on voit un espèce de tuyau
un serpentin qui redescend, qui passe au milieu du refroidisseur. Et à la sortie, on a l'alcool.
Ça, c'est un thermomètre que tu as mis dans la pipette ?
C'est un alcoomètre.
Un alcoomètre.
Ça nous donne le degré d'alcool
Selon le degré d'alcool, il monte ou il descend ?
Ouais, c'est ça. C'est une sorte d'ancimètre, en fait. C'est en fonction de la densité.
C'est marrant. Et donc là, ce qui coule, c'est du gin.
Alors ça, c'est la queue de distillation. On a arrêté, on a changé de récipient autour de 60 degrés. En fait, ça sort très très haut au début. Et plus tu avances dans la distillation, et plus le degré d'alcool descend. Et donc, passé les 60 degrés, on change de récipient et on passe là à la queue de distillation. Donc, c'est moins noble, on va dire, moins pur. Mais ça, on le rebalancera dans la prochaine distillation, puisqu'il y a encore énormément d'arômes, de choses intéressantes là-dedans. Donc ça, c'est pas perdu. Ça, on réextraira des choses de ça dans la prochaine distillation.
Bon, en tout cas, je te remercie, Marion.
Avec plaisir.
Je voulais remercier Romain aussi.
Bon, ça galère, hein. Ça galère, hein.
Ouais, un peu, ouais. Ouais. Ah, fort sur les machines, un peu.
Ouais, ben ouais.
Ouais, je sais pas, avec un peu de chance.
C'est pratique, mais quand ça merde, après...
Ça veut pas la frappe de gratte-cul, quoi. Ça l'a fait forcer, quoi.
Ah, merde.
Ça bourre de partout, le moteur est bouillant.
C'est Broxon, chaque année, on a des emmerdes avec les moyens. Ah, c'est ça. On a perdu une demi-heure pour rien.
Ouais, on a économisé 2 000 euros.
Ah, ça se prend. Une demi-heure, 2000 euros, c'est
pas,
bien.
Mais... Pour éviter de... Bah, mais je sais que tu voulais nous voir ailleurs, mais non. Pas tout de suite.
Eh bien, merci.
Eh bien, avec plaisir. Bon courage, bonne continuation.
Un jour. Ouais, merci.
Merci.
Bonne continuation à vous aussi.
Merci.
Allez, au revoir.
Salut.
Merci à Romain et Marion d'avoir ainsi pris le temps de nous recevoir. Parole Rurale est toujours en libre accès sur notre site radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.